Les cours du Collège de France.
Bien, donc je vais continuer à discuter d'une partie très très classique de la théorie des invariants. Donc aujourd'hui, il s'agira du théorème de Slice et Tan de Luna et du théorème de la généralisation du théorème de restriction de Chevalley qui est dû à Luna et Richardson. Mais je vais commencer par quelques préparations. Donc d'abord, on va parler du théorème de Matsushima. Donc G est un K-groupe affine de T fini et H un sous-groupe fermé de G. Alors, si on peut considérer le quotient G sur H comme aussi un espace algébrique. Mais il est connu que c'est un schéma. C'est en fait un schéma quasi-projectif. C'est un théorème qui est dû à Chow. Et une version relative qui est due à Reynaud. Je ne vais pas creuser là-dessus. Donc, il y a un théorème Matsushima qui dit que pour former un caractéristique 0, c'est dû à Matsushima. Donc, soit G, un K-groupe réductif et H. Un sous-groupe fermé de G. Alors ce quotient G sur H qui est un schéma quasi-projectif. Alors G sur H est un schéma affine. Si et seulement si H lui-même est au moins ça complètement neutre et réductif. Si par défaut on pense que les réductions sont connexes, voilà. Donc je rappelle la preuve. C'est dû à Matsushima en caractéristique 0 et Richardson en caractéristique positif. Donc d'abord, supposons que H, c'est le passage de H à 0, ça cause pas un produit tout, donc j'ignore ce problème, là. J'ignore un peu la différence entre H et H0, donc supposons que H est réductif. Alors on va démontrer que alors on a le quotient au sein des invariantes. Donc G mode mode H, et donc l'ingère des fonctions sur G qui sont invariantes par l'action de translation de H à droite et on sait que c'est une K-ingèbre de T fini on parle de la discussion de la semaine dernière, le théorème de Habusch. Et donc il suffit en fait. De démontrer, donc, démontrer que le morphisme de G sur H, ce quotient défini comme un foncteur, vers G sur H, est un isomorphisme. Parce que par définition, le G mode mode H est affine. Mais ça, c'est relativement clair parce que ce morphisme induit une bijection entre les ensembles de K points, supposons le K, je peux me clos. Ce côté, l'ensemble de K points, c'est des orbites. Et ce côté, l'ensemble de K points correspond à des orbites fermées. Mais toutes les orbites sont fermées dans ce cas-ci. Donc, ça fait une bijection. Et donc, ce morphisme est quasi fini. Quasi fini et surjectif. Et on sait que j'ai l'ensemble des invariants est toujours éternellement clos. Donc G sur H est normal. G sur H est normal. Et donc le théorème principal de Zariski. Implique que G sur H vers G sur H est un isomorphisme. Donc aujourd'hui, on applique le théorème principal de Zariski de multiples fois. Donc je rappelle ici pour que dans le cas le plus simple, vous voyez que oui, ça c'est un schéma quasi-projectif. Donc ça c'est G sur HH. Le théorème de Zariski dit que que se factorise en quelque chose de fini. Ici c'est quasi-fini. Ça c'est immersion ouverte. Donc on sait que G sur H, sur H est de type fini, donc X est de type fini, un cas schéma de type fini. Et puisque le morphisme de G sur H sur le G sur H induit une bijection sur les cas points, ça implique que le complémentaire est vide. Alors donc ça implique que le complémentaire est vide par le Nunstein-Lenzas. Donc ça conclut la preuve du fait que lorsque H est un sous-groupe réductif, alors le quotient au centre de champ de l'espace algébrique est isomorphique au quotient qu'on prend par théorie des invariants. Et donc a fortiori, le quotient G sur H est un schéma affine. Donc, inversement, on suppose que G sur H est affine. On va démontrer que H est réductif. Donc, si H n'est pas réductif, Alors on trouvera un sous-groupe unipotent, donc U est isomorphe G1, qui soit contenu dans le radical de H. Donc H, donc un sous-groupe normal. De H, et donc H sur U est affine. Et comme G sur H est affine, ça implique que G sur U est affine. Et ça, c'est pas vraiment possible. Donc là, ça dépend un peu de la caractéristique. Donc en caractéristique 0, c'est. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est que U va être inclus dans le radical unipotent d'un Borel de G. Unipotent maximal d'un Borel. Et donc G sur U s'envoie sur G sur ceci. Et ça, c'est l'espace affine basique qui n'est pas affine. Ça, c'est une épaire affine. Alors ça, c'est affine. Là, il faut faire quelque chose, pas des contradictions, donc ça, essentiellement, implique une contradiction. Donc l'argument, là, on a un peu du mal à faire marcher directement cet argument, mais il y a des bricoles qui fait passer, par exemple, dans le cas en caractéristique 0, donc la preuve en caractéristique 0, on peut faire appel à théorème de la version groupe de Jacobson-Morozov. Donc on met U dans un SN2 ou un PGN2, donc c'est R et dans G, et donc R c'est ou bien SN2 ou PGN2, et ça implique que R sur U est affine, mais R sur U, c'est justement R sur U. Ici, on sait que c'est A2 moins 0, qui n'est typiquement pas affine. Donc ça fait une contradiction. Mais ici, ça suppose que la caractéristique 0 pour faire marcher le Jacobson-Morozov. En caractéristique positive, Richardson donne un argument un peu astucieux, alambiqué, je ne vais pas présenter, mais bon, c'est essentiellement ça l'idée. Donc on utilise le fait que le quotient de l'unipotent du Borel n'est pas affine. Il y a un papier d'une page de Richardson qui donne un argument qui marche en caractéristique P, qui est assez joli, mais je ne vais pas rappeler. Voilà, donc ça c'est un peu le truc de base, et que le terme Matsushima, un espace homogène, qui est toujours quasi-projectif et il est affine si et seulement si H est un sous-groupe réductif de G. Supposons que G est réductif. Et ce qu'on doit utiliser, c'est essentiellement le théorème de principal de Zariski. Maintenant, je vais rappeler un théorème vraiment très joli de Luna qui donne la structure de l'axiome d'un groupe réductif sur un schéma affine. Sur sur le slice éteint de Luna. Donc ici, K est un corps algébrique donc clos de caractéristique 0. Je crois qu'on peut relaxer cette condition caractéristique dans beaucoup de cas, mais je n'ai pas fait assez d'études pour éclaircir tous les points, mais je vais dire ce qui devait être vrai, et c'est pas très difficile. Donc X est un K-schéma, ce qu'ils appellent une K-variété. Donc c'est un K-schéma réduit, irréductible et de type fini. Ça, c'est le cas initial. Donc il est muni d'une axiome d'un groupe réductif, donc j'ai un cas groupe réductif. Agissant sur X. Et on a le morphisme quotient, donc le morphisme quotient de X vers X mode G. On appelle le pi de X. Donc ça, c'est le spectre de K XG. Donc on sait, le quotient invariant est toujours un schéma de type fini. C'est une K variété. Donc si l'anneau de fonction de X est un domaine, alors les invariants restent un domaine. Il est de type fini par le théorème de Hindberg-Mumford qu'on a discuté la semaine dernière. Donc là, il y a un théorème de Luna. Donc ici, j'appelle la propriété de base qui l'induit, Px, induit une bijection. Entre l'ensemble des orbites fermées et l'ensemble des cas points, le cas injuste donc clos, sinon il faut prendre les points fermés.
Et qui est affine,
oui. Merci. Donc, terme de limite à dire sur suivant, donc soit X. Donc, quand j'ai un point de X, c'est toujours un cas point de X. Un point appartenant à une orbite fermée. Donc il s'agit d'une description de l'axiome autour d'une orbite fermée. Alors, il existe un sous-schéma localement fermé. L de X qui contient le point X et qui est stable sous l'action de G indice X, donc le stabilisateur du point X, et tel que le morphisme de G fois L, le produit contracté, donc divisé par l'axiome de G de X. Donc il y a GX agit sur N à droite et agit sur G à gauche, qui s'envoie sur X, est un morphisme étale. Est un morphisme étale et G est Q variant. Et de plus, il est vraiment compatible à ce morphisme de cosin sans invariant, dans le sens qu'il existe, de plus, il existe un ouvert U. Dans le cosin invariant de G sur X, tel que c'est l'image, dont nous appelons ceci alpha, donc l'axiome restreint à L, tel que l'image de ce morphisme métal est l'image réciproque de cette ouverture. Donc, ce théorème de Slice et de Luna donne une description très variable des ouverts de cette forme. Des ouverts qu'on obtient par image réciproque de ce morphisme du cosin invariant. Voilà. Donc, en plus, il y a très peu d'hypothèses. On ne suppose quasiment rien sur X. La seule hypothèse, c'est que l'orbite est fermée. Donc là, sur l'hypothèse, ici, l'hypothèse, c'est que la caractéristique de K est 0. Et il y a une très forte chance que ça marche si la caractéristique de K est positive. Et si le stabilisateur est un tore, ça devait marcher aussi. Mais je n'ai pas vérifié tous les arguments. D'accord. Tu as une question ? Si on comprend le point A dans. Quand tu prends un point où le stabilisateur est.
Oui, c'est tout.
C'est tout. Mais en fait, la construction dans le morphisme de l'algèbre de Lie vers le groupe, c'est un peu comme l'exponentielle.
Non, mais c'est la dernière condition. C'est peut-être bon, mais. L, c'est quoi ? Tu prends 0 dans l'algèbre de Lie. Donc L, c'est.
N, c'est 6, 0, je peux prendre N et 0 lui-même. Non, attends. Non, j'ai R à GX, donc je prends L à X. Donc ce morphisme, il est identité.
Tu prends
G d'X et G. G d'X et G, donc N et X
lui-même.
L égale à X. Donc cette identité, donc ça marche dans ce cas-là.
Oui, mais on peut prendre
Tu peux prendre un truc plus petit.
À la fin,
je peux. Je peux prendre, choisir N plus petit et je peux rétrécir le U. Enfin, d'accord. Non, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. De plus, on peut s'arranger. Peut-être que oui. Oui, non, je suis d'accord. On peut choisir.
Et N sur le double bar GX, c'est U ou quoi?
Oui. Donc d'abord, en fait, c'est assez étonnant, enfin, c'est pas étonnant, mais en fait, si on peut réduire au cas de la preuve, on peut se réduire. Au cas X lisse, en fait, on peut se réduire au cas de l'espace affine. Parce qu'en trouvant un plongement, on prend un plongement G équivariant de X, donc V, donc ça c'est un G module. Donc si X est un point fermé ici, l'orbite ici reste encore fermée. Alors si on avait une. V, donc ici c'est X, si on a ce slide NV, eh bien on n'a qu'à tirer en arrière L. Et bon, c'est ça les choses qu'on bute. Donc on peut supposer que XL10, donc ça c'est le premier coup. Ensuite, donc si même X est un point de X, donc un point et l'orbite fermée, donc j'ai noté G parenthèse X, donc c'est G mode GX, est une orbite fermée. Donc il est affine. Et donc par Matsushima, c'est que GX, donc au moins la composante neutre, est réductive. Donc on a le GX, donc il agira sur l'anneau local de X en X, donc il stabilise l'idéal maximal MX et MX au carré. Donc on a l'axiome de GX sur l'espace tangent. C'est le cotangent ici. Et là, ici, on utilise le fait que j'ai linéairement au caractéristique 0, donc j'ai linéairement réduit. Donc GX est linéairement réductif. La catégorie des G modules est semi-simple. Donc, on peut, dans cet espace de tangent en X, on a le tangent de l'orbite, donc qui est G invariant, et on peut trouver un complémentaire. Je ne sais pas si j'aurais. Ce n'est plus le V là-bas, donc le V est. Donc, c'est plus le V là-bas. Donc, V, c'est un complémentaire. Un complémentaire V stable. Donc, ça marche, l'hypothèse que réductif, en caractéristique 0, ou si c'est un tor, ça marche aussi. Et ensuite, je suis un peu confus entre le tangent et le cotangent, mais le. Excuse-moi, je fais un peu les choses un peu à l'envers ici. Un peu mouillé. Donc ici, on trouve un relèvement G équivariante. Et ce qui nous donne un morphisme, ça implique un morphisme G équivariant de X dans le tangent en X en X qui t'envoie X sur 0. Donc ça c'est un quotient de l'idéal maximal par son carré et puis on prend un relèvement. Donc ça donne un morphisme sur l'espace symétrique, sur l'algèbre symétrique vers l'anneau de donc ça donne un truc de sim de mx sur mx au carré dans l'anneau de fonction qui est g plus variant, qui nous donne un morphisme de x vers l'espace tangent de x qui est g plus variant. Et ensuite, on va choisir on va choisir le complémentaire. On a, dans l'espace tangent de x sur x, on a le tangent de l'orbite. Et on va choisir le complémentaire v. Donc là, c'est le complémentaire. Complémentaire qui est g plus variante. G stable. Et on va prendre le slice qu'on veut, c'est-à-dire phi moins 1 de V. N provisoire. Après, on doit enlever les parties, mais d'abord on va prendre N comme ça. G extra plus, merci. Il n'y a pas d'accent de G de toute façon. Donc c'est ça l'idée. Donc si vous pensez au cas de G est un groupe réductible, X est G et X est 0. Ici, c'est juste un morphisme à peu près arbitraire de G vers la jet de Lie, du moment que c'est G plus variante. Donc, c'est un peu l'inverse de l'exponentielle, en fait. Et on ne demande rien d'autre que le fait qu'il est G plus variant. Et donc, on a ce morphisme de... notons ça n, parce que n c'est des plus petits. Donc on a ce morphisme phi de g fois gx, donc n il a une action de gx, donc là donc on a alpha n qui va être dans x. Donc, et on va démontrer qu'il existe. On cherche un ouvert n dans n qui satisfait toutes les conclusions. Du théorème. Il s'agit du lemme suivant, donc qui n'est pas en fait n'est pas difficile, mais, donc soit G. Un groupe réductif donc agissant sur des cas schémas affines x, y et phi donc x, y est un morphisme équivariant morphisme G plus variant. Alors, on a X, un point dans X, qui s'envoie sur Y, un point dans Y, tel que les conditions suivantes sont satisfaites. D'abord, l'orbite de GX et l'orbite de GY sont fermées. Dans X et Y respectivement. Donc ici, ça va être le point 0 dans N, il s'envoie dans X, donc l'orbite sont fermées. Le morphisme de phi de X à Y est étale on l'équipe. Donc ça, ça marche, parce que on a fait tout ce qu'il faut pour que l'espace tangent, que l'appliquement N bus sur l'état tangent soit un isomorphisme. Et puis il y a une hypothèse que, après, un peu difficile à voir pourquoi on a besoin de ça, mais il faut que phi restreint à gx, donc ça donne un morphisme de g, l'orbite x sur l'orbite de gy, est un isomorphisme, c'est bijectif. Donc ça, c'est les trois hypothèses de Luna. Et là, il conclut qu'il existe. Alors, il existe un ouvert affine U de X qui est G stable tant que, bien sûr, on voit que U contient le point X. On veut que U est saturé par rapport au morphisme quotient invariant. Donc ça va être égal à pi x moins 1 de pi x de U. Et si V est égal à et phi restreint à U est étale, V est l'image de phi de U et phi de U, alors on a un diagramme cartésien par rapport au morphisme du quotient invariant. Donc ça, c'est aussi bon, aussi bonne qu'on puisse imaginer. Donc on a U à V, donc ça c'est phi restreint à U, et là on a le morphisme de quotient invariant qui s'applique parce que on est dans la saison affine, V restreint à G, et là c'est un diagramme cartésien avec ici phi est étale et phi divisé par G est aussi étale. Voilà. Enfin, ici, on peut mettre les hypothèses des variables de schéma normaux. Mais sinon, on peut enlever pour que, faire ça, que ça fait normal. Mais il faut bien être sûr que ça sonne donc vite. On peut l'enlever. Vous voyez, on parle de cette situation où on a ce morphisme qui est éteint en un point. Et d'abord, on peut enlever les points qui ne sont pas normaux, les points qui ne sont pas normaux sont gestables. Et parce qu'on peut séparer les sous-schémas qui sont stables, disons, et fermés, et qui sont disjoints par des fonctions invariantes. Donc en inversant les fonctions dans les jambes invariantes, on peut enlever les parties qui sont pas normales, par exemple. Et en fait, on peut enlever tel que en inversant une fonction invariante. On peut supposer que x et y sont normales. Je peux supposer au début si je veux. Et je peux supposer aussi que le morphisme de phi vers x, y est quasi fini. Parce qu'en x, il est quasi fini. Quasi fini. Et là, on applique de nouveau le théorème de G équivariante. On applique de nouveau le théorème principal de Zariski. Donc, ici, on a x vers y, on prend la normalisation de y dans x, on aura ce morphisme x tilde, donc le diagramme est GQ variante. Donc x dans x tilde est une dimension ouverte, ici on a phi tilde, et phi tilde est fini. Et on, ici, une observation est que on observe que l'orbite de g de x est encore fermée. Dans l'adhérence extinde. Et c'est parce que parce que phi tilde est fini, on sait que phi tilde moins 1 de phi de g de x, donc ça c'est g de y, est une réunion finie. L'orbite de même dimension. Donc il y a une orbite qui est le g de x, et puis il y a d'autres, mais ils sont tous de même dimension. Donc ils sont toutes ouvertes et fermées dans cette image réciproque. Et du coup, on peut donc se ramener au. Donc on peut se ramener. On se ramène au cas où on remplace x tilde par x tilde y. Au cas où x, y est un morphisme fini. Fini et g équivariante. Et donc, c'est mon fini équivariant, c'est un peu tout même l'hypothèse que phi de g de x sont fermées et phi est éteint en x. Et avec cette bite qu'on a un peu plus bizarre, comme restreint cette orbite, c'est un isomorphisme. Et bien, dans cette situation, bien sûr, on a, après rétrécir en inversant la fonction discriminante, on trouve un morphisme étal. Donc après inversion, de nouveau par une fonction invariante, on a un morphisme fini et éteint, donc x, y, mais fini et éteint. Et on se demande pourquoi on a besoin de cette condition. On n'a pas enregistré cette hypothèse que la restriction de l'état d'orbite est une bijection. Cette condition est nécessaire parce que ça implique que qu'on peut se ramener au quotient invariant. Si le morphisme phi est éteint, si on prend le quotient champêtre, c'est fini éteint, il n'y a pas de problème, mais quand on prend le cosin invariant, on a un problème supplémentaire, peut-être à cause du défaut entre ces orbites. Donc ces conditions-là impliquent qu'on peut un diagramme cartésien. Donc, le morphisme est éteint, donc le morphisme phi, le morphisme phi G est éteint. Éteint au point pi x de x. Donc ça c'est exactement ça. Donc c'est ça qui c'est ça dont on a besoin. Donc voilà la preuve du théorème de Luna. Donc la seule chose donc on a besoin c'était de la linéaire réductivité de G de X pour démarrer la construction. Après toutes les vérifications, ça marche sur toutes les caractéristiques. Et donc, ça marche pour les réductifs sur le conjugué clos, et ça marche aussi, ça devait marcher aussi pour les torts caractéristiques P. Et peut-être ça marche aussi bon, en caractéristique P sous des hypothèses. Un peu plus raffiné, je ne vais pas chercher. Oui.
Il faut supposer normal au départ ou pas?
Non, mais au début, tu ne supposes rien du tout parce que tu peux le mettre dans un espace affine. Ça dépend pour le lemme ou pour le théorème.
Il y en a une inversion, une fonction invariante, on peut supposer x, y normal, mais à ce moment-là,
si c'est normal, je n'ai pas besoin de faire ça, mais c'est le même argument pour s'assurer que c'est quasi fini. Il doit inverser la fonction pour enlever les fibres dimensions supérieures.
Mais si au départ, ce n'est pas normal au voisinage de petit x,
ça ne peut pas... Non, si c'est normal non x, ça doit être normal non x, bien sûr. Ça doit être normal non x.
Il faut supposer que c'est normal en petit x.
En petit x, absolument, oui. Donc ce théorème de Slice et Tan de Luna nous donne des modèles locaux pour que l'action locaux pour les actions réductives sur des schémas affines. Donc si G agissant sur X affine, donc si X est dans X est un point dans une orbite fermée, alors le théorème de Slice et Luna dit que en fait c'est un équivalent pour la topologie étale entre l'axiome de G sur X au voisinage, dans un voisinage de G de X. Avec le fibré normal. Donc, ça va être G sur H. H, c'est égal à G de X. Fois V, où V est un H module. Ça, c'est le conormal. Ça, c'est le normal. Le fibré normal. De l'orbite G de X dans X. Et on peut vérifier que cette application de l'ensemble des orbites fermées vers les produits contractés de cette forme, donc il y a un sous-groupe H, un G sur H, et puis un V module, un peu plus contracté, à l'image finie. Donc c'est un recollement de modèle G sur H avec G sur H, du contract. Pardon?
G sur H, contracté avec V au-dessus de H.
Oh, pardon. Je ne suis pas bien aujourd'hui, j'ai ça. Voilà, donc en fait, on n'a pas vraiment besoin de ceci, mais ce dont on a besoin plus tard, c'est le point de départ du théorème de restriction générale et l'existence de l'ouvert principal. Donc c'est l'ouvert principal ou l'ouvert semi-simple régulier que j'ai mentionné dans le premier cours. Donc, il y a le théorème de Luna-Richardson. Donc, de nouveau, donc, G, c'est un carreau prédictif. Agissant sur un K-schéma affine. Et là, en supposant que l'hypothèse est qu'il existe une orbite fermée régulière. Donc une orbite régulière semi-simple, si on veut. Alors, il existe là. Il existe un ouvert, c'est l'ouvert principal. U de X tel que pour tout X U dans U, le stabilisateur de U est conjugué à stabilisateur de X. Donc, du moment qu'il y a une seule orbite régulière fermée, enfin ici pour être sûr, je suppose aussi, bon, il peut être fortement régulière. Il y a peut-être, on peut l'affaiblir peut-être, mais supposons que G de X est convexe. Donc il est réductif parce que l'orbite est fermée, mais je suis sûr que c'est réductif convexe. Il y a un problème de roue fini, je n'ai pas élucidé, ça ne devrait pas causer vraiment de problème. Donc là, c'est une application immédiate du théorème de Slice de Luna. Donc on a cet ouvert de donc ce Slice de Luna, le produit contracté de Gx fois. Vers X, donc slice de Luna. Donc l'image c'est U dans X. Alors ça implique que pour tout X dans U, pour tout U dans U, le stabilisateur de U est conjugué à un sous-groupe fermé de G de X. Donc c'est ça la conséquence de slice état de Luna. Donc le stabilisateur ne peut pas être plus gros que G de X. Parce que ici G sur G de X. Mais la condition que l'orbite de Gx est régulière, ça implique la dimension de G aussi petit que possible. Donc dimension de g de x ne peut pas être plus grand que dimension de g de x. Alors si gx est connexe, ça implique que un gu est conjugué à g de x. Donc si en caractéristique P, si le stabilisateur est un tore en un point, ça va être le même tore conjugaison près dans un voisinage Sarisky. Et en fait, en reprenant un peu le terme de slice, on peut démontrer que l'ouvert U, le maximal, U maximal, est saturé par rapport au quotient invariant. Autrement dit, j'écris U, c'est pi x moins 1 de pi x de U. Donc il y a vraiment un ouvert principal sur le... Donc il y a un ouvert principal. De x sur g. Donc il y a un ouvert de ce quotient invariant. C'est vraiment donc l'image réciproque sur x a la propriété que les orbites sont toutes régulières semi-simples et les sous-groupes d'isotropie sont tous conjugués. Donc c'est vraiment exactement la même situation que l'axiome adjoint ou l'axiome de conjugaison. Donc c'est un peu la prémisse de la généralisation de Lunar-Richardson, de termes de restriction. Donc, je rappelle, avant de dénoncer la généralisation, je vous rappelle quelle est la situation usuelle. Donc le théorème de restriction de Chevalet. Donc le truc de base, c'est que G est réductif, agissant par la somme adjointe, sur son ingène de ligne. Alors si T est un temps maximal de G, et T c'est l'ingène de Cartan, qui est donc l'ingène de ligne de T. Donc ici on a le groupe de Weyl qui agit sur T. Et sur son ingène de Lie, alors le morphisme, alors l'inclusion, donc la restriction, donc l'inclusion de T dans G, a dû à un isomorphisme entre le quotient invariant de T sur W et G sur G. Et l'inclusion du tore dans G induit un isomorphisme entre T sur W avec G sur G. Donc ça, c'est l'action par conjugaison. Donc, le terme de Lunar-Richardson, en fait, ça c'est fait vraiment général, qui marche presque toujours sous l'hypothèse qu'il y a une seule orbite semi-simple régulière. Donc, soit G est un carreau réductif. Lunar-Richardson suppose toujours caractéristique 0. Mais de nouveau, je pense que ça marche, du moment que le groupe principal est un tore. Et agissant sur X, donc là, il faut des hypothèses qu'une variété. Un cas schéma réduit est réductible et normal. Ici, le normal est important. Affine, oui. Et soit un point de X, qui est tel que l'orbite G de X est fermée et est régulière. La dimension est maximale parmi tous les orbites. Et donc, on a ici, donc il est affine. Donc, la H et G de X est réductif. Et ici, je suppose H est connexe. Dans l'article de Luna Richards, il ne le suppose pas. Donc, ça devrait être l'hypothèse, mais que je n'ai pas eu le temps de vérifier. De comprendre ses subtilités, donc je suppose c'est connexe. Donc on va prendre F et H de et X de H, donc le sous-schéma des points fixes sous H, donc qui joue le rôle de l'algèbre des lits de T depuis Cartan, ou de T ici. Et le groupe de Weil, ici dans ce cas là, ce n'est plus un groupe fini, mais c'est pas grave, mais en tout cas on va prendre le normalisateur donc G de H divisant par H, donc le centralisateur, prendre le centralisateur de H peut être plus gros que H, donc il y a un bout qui attention que le centralisateur dans G de H est plus gros que H, même lorsque H est un tore. Alors le morphisme, alors l'inclusion de F dans X induit un isomorphisme entre le cosin invariant de F sur W et X divisant par G sous l'hypothèse, il y a quand même une hypothèse que F sur W est irréductible. Mais en fait, ça c'est l'hypothèse dans Richardson, mais après aussi un peu bizarre. Mais en fait, la vraie hypothèse qu'il utilise, qui est beaucoup plus naturelle, c'est que toutes les composantes irréductibles, après il y a beaucoup de composantes irréductibles, de F ont une intersection avec l'ouvert principal. Donc c'est ça vraiment, cette hypothèse dit vraiment ça. Et après il y a un peu des composants qui sont entièrement dans la partie qui sont principales, alors ils sont un peu, on les perd un peu. On prend que les composants qui ont une intersection avec l'ouvert principal. Donc vous voyez que c'est extrêmement général. On ne suppose rien, on l'a supposé comme X est normal, ça c'est important. Et F, en général, est assez bon. Si on suppose que H est un tore, donc le lieu de points fixes ne sont pas pires que X. Donc, si X est lisse, les lieux de points fixes sont aussi lisses. Donc, mais le quotient peut être méchant, parce que ici, W, même si c'est un groupe fini, ce n'est peut-être pas un groupe de réflexion, donc le quotient ne peut pas être une singularité, mais on arrive toujours à cet isomorphisme-là. Donc, voilà, maintenant je... Pardon ?
C'est en caractéristique 0.
Ben, c'est un caractéristique 0, mais je pense que ça marche si tu supposes que c'est un tort. Je n'ai pas vérifié tous les détails, mais...
Parce que peut-être chez Manet, je crois que c'était tout le temps un isomorphisme, mais au niveau de l'algèbre de Lie, ce n'est pas toujours un isomorphisme en caractéristique, je crois.
Donc, oui, il y a...
Enfin, oui.
Oui, 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 non, non, je comprends, il y a des... mais je dis qu'en fait, c'est relativement... il faut des hypothèses, mais c'est quelque chose qu'on peut vérifier si ça marche ou pas. C'est vraiment une histoire entre les... Ce n'est pas tout dans les points singuliers, c'est juste un morphisme qui est objectif, en caractéristique 0 et irrationnel. C'est un truc qu'on peut vérifier sur le corps de fonction. Donc, en fait, la remarque, c'est que toute orbite, toute orbite fermée de G sur X à une intersection non vide avec F. Donc ça c'est relativement clair, c'est l'orbite régulière, c'est semi-simple, parce que le sabiateur est conjugué, enfin fait un pool de conjugaison. On va atterrir sur le lieu point fixe. Et il faut des arguments, mais ça marche pour toutes les orbites fermées. Et donc, on a toujours ce morphisme de. Le morphisme de F dans X, ça est. Ça implique, induit toujours ce morphisme entre les cosins invariants de W dans X sur G. Et ce morphisme est surjectif sur les quatre points. Et ça, c'est des schémas affines. Donc ça c'est affine et normal. Et donc sujet et qui est même un bijectif sur la partie principale. Donc, on a ça c'est quelque chose d'irréductible. Et donc là, on a un lemme d'algèbre relativement élémentaire qui dit que si phi, qui ressemble au terme de Zariski, mais ne l'est pas, c'est beaucoup plus élémentaire, un morphisme y qui est birationnel et surjectif entre les cas schémas affines, donc ça c'est important que ce soit affine, et Y est normal, alors schéma donc réduit, réductible, alors phi est un isomorphisme. Donc là, ça reste un peu au terme de Zariski, mais ce ne l'est pas. Vous regardez simplement les algèbres de fonctions, mais pour le. On voit bien que le. On démontre que les algèbres de fonctions sont les mêmes. Donc ça, c'est un thème d'Andu de Luna, qui, malgré son apparence, est en fait assez facile et élémentaire. Et voilà, donc ça, on a ce joli théorème qui, en fait, qui donne le théorème restriction dans beaucoup de cas, donc dans aussi dans le cas de constant réaliste. Ou dans le cas des F symétriques, donc on a une involution sur le groupe de Lie, sur l'algèbre de Lie, etc. On verra plus tard, donc sur le groupe, le cas de monoïdes réductifs. Où on a G qui s'inclut dans un monoïde M, et le temps maximum s'inclut dans une variété torique. Et donc on aura M mode G par la somme conjugaison, c'est la même chose que le quotient de variété torique par la somme de groupe de variété. Donc ça s'applique Tenken dans le cas monoïde. Donc il y a un cas en fait qui est dans tout ce cas-là, ça ressemble quand même au cas de l'algèbre de Lie, mais un cas qui est beaucoup plus difficile, c'est le cas des variétés commutantes. Donc x, y dans G fois G, tel que le crochet est 0. Donc ça c'est le x. On sait que l'ouvert régulé semi-simple, où les x et y sont simultanément diagonalisables, est dense dans x. Mais on ne sait pas x est réduit. Donc on ne sait pas si x est réduit. Mais n'empêche, si on prend le réduit de x, et puis on normalise si nécessaire, alors on prend le quotient invariant de G, ça va être le 2 fois l'algèbre de Cartan divisé par l'axiome diagonale du groupe de Weyl. Pardon ?
Quand tu dis on ne sait pas si x est réduit, ça veut dire que tu définis x
comment ? Bah, tu définis comme un foncteur. Comme un foncteur. Donc tu ne sais pas qu'il est réduit. Je vais vraiment discuter là-dessus. Checker des équations. Oui. Donc c'est grâce à la conjecture que ce truc là est réduit. Donc ici on applique le thème de Luna Richardson, trouve ça. Et dans beaucoup de cas, on peut démontrer que même sans truc de réduit, c'est quand même ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc on ne peut pas enlever des nipotents dans ce truc-là, mais dans le quotient invariant, ça a tendance de tuer les nipotents. Donc, voilà, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, s'il y a des questions.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.